Amis auditeurs de Radio Courtoisie, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Libre Journal des Débats. Je retrouve le grand studio grâce aux bons soins de Benoît et à la rupture malheureusement transitoire de mon exil bruxellois. Je suis à Paris pour cet après-midi et pour les besoins de cette émission. Et c'est une émission 100% Fraternité Saint-Vincent-Ferrier aujourd'hui. Nous allons à la fois découvrir, apprendre à mieux connaître cette Institut de vie religieuse, puis nous allons découvrir leur actualité, et puis le tout dernier livre du père de Blinière, qui est évidemment bien connu d'un certain nombre de nos auditeurs, et pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'occasion d'entrer plus avant dans ses travaux et dans sa manière toute pédagogique de nous transmettre les grands mystères et les grandes beautés de la foi. J'ai donc révélé tout de suite le nom d'un de nos invités, il s'agit du père Louis-Marie de Blinière. Bonjour mon père.
Bonjour Charles.
Vous êtes le fondateur de la fraternité Saint-Vincent-Ferrier. Vous avez commis un certain nombre d'ouvrages chez Dominique Martin Morin, qui est votre éditeur historique. Vous prêchez retraite après retraite, et ce sera évidemment un grand plaisir pour nous de vous avoir à la fois sur cette fraternité Saint-Vincent-Ferrier et puis sur votre tout dernier ouvrage, La vie en Christ avec les pères et saint Thomas chez Dominique Martin Morin. Pour vous accompagner, le prieur de la fraternité Saint-Vincent-Ferrier, le père Augustin-Marie Aubry. Bonjour, bonsoir mon père.
Bonsoir Charles.
Vous êtes donc actuellement prieur de la fraternité Saint-Vincent-Ferrier. Vous continuez un doctorat sous le regard patient du père de Blinière. Et vous allez nous parler à la fois de cette exposition sur un couple japonais, les Nagai, et puis sur la vie et l'actualité de la fraternité, si vous le voulez bien, mon père.
Bien volontiers.
D'abord, première question, pour le père de Blinière peut-être, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la fraternité Saint-Vincent-Ferrier et quelle a été l'histoire de sa fondation ?
Voilà, donc nous sommes un institut religieux, c'est-à-dire que nous faisons des vœux pour marcher à la suite de Saint-Dominique, dont l'idéal était de contempler dans une vie régulière, avec l'office, le silence, un peu comme les bénédictins, mais ensuite de prêcher la vérité contemplée. Donc j'ai fondé cette fraternité en 1979, j'avais 30 ans et 2 ans de sacerdoce. J'ai cherché un peu à droite et à gauche, en Europe en particulier, s'il y avait une province dominicaine avec l'observance, avec les études de saint Thomas et avec le rite dominicain, le rite traditionnel, et je n'ai pas trouvé, ce qui fait que j'ai commencé de façon, disons, canoniquement provisoire, cette fraternité. Nous avons fait des vœux privés et temporaires dans les premiers temps. Donc notre idéal, c'était vraiment celui d'actualiser ce qu'a fait Saint-Dominique au XIIe siècle, et nous pensons que Saint-Dominique garde toute son actualité pour la transmission de la vérité révélée.
Pourquoi avoir choisi de vous mettre sous le patronage de Saint-Vincent-Ferrier ?
Ah, parce que c'est un saint de combat. Oui, il se trouve que je suis né à Madrid, donc je suis de famille bretonne, et Saint-Vincent-Ferrier est un Espagnol, si on parle dans le terme moderne, qui est mort en Bretagne. Non, mais Saint-Vincent-Ferrier est à la fois un intellectuel de très haut niveau, un prédicateur qui s'est occupé de l'unité de l'Église, puisque c'était la période du grand schisme, et vraiment un grand thaumaturge, donc un saint de chrétienté, si vous voulez, un saint de période agitée, qui n'a pas hésité à intervenir dans les conflits de son temps, et c'est lui qui, indirectement, est à l'origine de l'unité de l'Espagne.
Père Augustin-Marie Aubry, aujourd'hui c'est un institut charisme n'est pas le bon mot, vous me corrigerez pour le vocabulaire, mais de vie dominicaine, enfin qui suit l'esprit dominicain. Comment cela se concrétise-t-il plus spécifiquement en comparaison à d'autres ordres ou instituts de vie religieuse ?
Mais notre vie est structurée selon l'esprit de Saint-Dominique, qui reprend la tradition augustinienne d'une vie commune très forte, une vie cénobitique, qui s'organise autour de l'office divin, de la prière en commun, la prière personnelle aussi, et tout cela nourri par les études et débouchant dans la prédication, dans l'apostolat. Et nous avons vraiment dans notre vie ces deux aspects, une vie communautaire forte, et une vie apostolique qui déploie à l'extérieur du couvent via toutes sortes de moyens, hein, la prédication orale, par le papier, les articles, les livres dont on va parler tout à l'heure, ou bien par les ondes et les réseaux aujourd'hui, eh bien nous tâchons d'illustrer la vie chrétienne et de déployer pour tous les hommes la vie dans le Christ. Aujourd'hui, nous sommes une communauté de 26 membres avec des aînés, dont le fondateur et puis la première cohorte des frères qui ont mené la fondation, et puis jusqu'à des jeunes frères qui nous rejoignent après avoir passé leur bac et commencé leurs études. Ils entendent l'appel de Dieu et ils sont attirés par le visage rayonnant, engageant de Saint-Dominique, qui est quelqu'un qui attirait la sympathie, non pas parce qu'il disait des vérités faciles, hein, il était exigeant, mais cette exigence était monnayée par une charité immense qui découlait de son cœur et qui invitait tous ses auditeurs à le suivre, même dans les voies exigeantes qu'il proposait à la suite du Christ.
Pouvez-vous nous présenter quelques apostolats qui seraient, par exemple, très symboliques ou qui résumeraient, synthétiseraient une partie de votre mission pour la cité?
Alors, comme apostolats de la fraternité, ils sont nombreux. Je voudrais souligner des apostolats historiques, notamment un qui me paraît très important, qui est l'apostolat des retraites spirituelles selon la pédagogie du rosaire. Les retraites du rosaire, pourquoi je dis que c'est important? D'abord, c'est un format apostolique qui accompagne la vie de la fraternité depuis sa fondation, et nous en prêchons très régulièrement. C'est des milliers de retraitants qui ont suivi ces retraites du rosaire, c'est-à-dire la contemplation des mystères de la vie du Christ par le regard de Marie. Et c'est important en plus parce que notre fraternité est née de cette retraite. Cette retraite a été prêchée avant même la fondation de la fraternité, et les premiers frères qui ont fondé, qui ont été attirés par le message et la vie de Saint-Dominique, ont d'abord vécu cette retraite avant de s'engager. Donc on a été, d'une certaine manière, engendré par cette retraite du rosaire. Et ça, c'est vraiment une chose qui est belle, et c'est un apostolat que nous tâchons de développer en formant génération après génération de nouveaux frères pour pouvoir la prêcher, et puis en étendant le rayon de prédication dans les eaux. Nous pouvons proposer cette retraite. Nous ne la faisons pas que en Mayenne, là où se trouve notre couvent, mais au loin, surtout dans les pays francophones, et puis jusque dans le Nouveau Monde, au Québec, nous allons prêcher régulièrement ces retraites. Premier apostolat, donc les retraites du rosaire. Autre apostolat historique est celui de notre revue Sedes Sapientiae. Nous sommes aujourd'hui au numéro 176, quelque chose comme ça. Tous les trimestres, nous tâchons de fournir à nos lecteurs un espèce de bouquet d'intelligence catholique touchant toutes sortes de domaines, la théologie, bien sûr, la philosophie, la vie spirituelle, l'histoire, l'art, la culture, avec des recensions d'ouvrages qui nous paraissent intéressants et qui peuvent nourrir la vie chrétienne, la vie intellectuelle de nos lecteurs. Et pour les autres apostolats plus récents de la fraternité, je soulignerai une veine que nous avons explorée et développée ces dernières années en direction de la jeunesse, avec le souci de former les intelligences à la lumière de la doctrine de saint Thomas d'Aquin. Et depuis quelques années, nous avons développé une université d'été, la Semaine Aquinas, qui se tiendra en Normandie cet été, à la dernière semaine de juillet, à partir de 18 ans. Donc les auditeurs, vos jeunes auditeurs, sont invités à nous rejoindre. Le thème de cette université d'été, chaque année nous avons un thème spécifique, cette année ce sera celui de l'identité, parce que c'est une notion dont on parle beaucoup sans jamais beaucoup l'approfondir, et nous voulons donner à nos étudiants et nos jeunes professionnels des outils intellectuels pour mieux comprendre ce dont il s'agit. Et à partir de cette université d'été, nous avons développé un cours du soir, une formation continue pour approfondir la pensée de saint Thomas. qui s'appelle le Centre Saint-Thomas, avec une classe qui se réunit régulièrement à Paris, et puis les cours sont diffusés aussi via les réseaux, ce qui permet de réunir des promotions annuelles de 150 ou 200 étudiants qui peuvent approfondir sur un cycle de 4 ans la pensée du docteur commun. Et le petit dernier, dans cette ligne de la formation intellectuelle de la jeunesse, c'est le Campus Veritas, qui propose un format d'approfondissement doctrinal, mais pour les lycéens, 16-17 ans, garçons et filles, pendant une semaine, l'enjeu étant de donner à cette génération charnière, hein, cet âge charnière, les outils pour pouvoir se jeter dans le grand bain de la vie professionnelle, la vie universitaire, la fac, la prépa, etc., où les jeunes peuvent parfois être un peu désarçonnés par le passage du cocon familial à la vie au grand air. Et avec ce Campus Veritas, nous tâchons de les aider, de leur donner des outils pour ménager au mieux ce passage important de la vie adolescente à la vie adulte.
Père de Blinière, quand on fonde une communauté religieuse comme celle-ci, est-ce qu'on a déjà en tête les apostolats qui viendront? Est-ce qu'on se laisse surprendre petit à petit par ceux qui viennent? Finalement, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de voilà, on voit croître ce qu'on a semé ou ce que d'autres avec soi-même ont semé? Ça doit être à la fois fascinant et parfois déroutant par moments, j'imagine.
Oui, bien sûr. Oui. En fait, vous ne serez pas surpris que je vous cite l'idée que la vraie tradition est critique. Hein. Donc, évidemment, quand on... Charles, on vous connaît. Mais donc, quand on fonde, on est enraciné sur quelque chose. Moi, j'étais bien enraciné dans le corpus de Saint-Thomas. Et également, pour la question, le père Aubry l'a évoqué, j'avais été converti parce que j'ai eu une phase d'athéisme de 4 ou 5 ans. Et ma conversion vient des exercices de Saint-Ignace. Et donc, je les apprécie, mais je me suis dit, il faudrait quelque chose qui soit plus ouvert sur l'ensemble de la vie théologale, la foi, l'espérance, la charité, et sur les dons du Saint-Esprit. Et comme j'avais vraiment pris goût à saint Thomas d'Aquin, et que j'ai découvert la figure de Saint-Dominique comme vraiment l'idéal qui permettrait de concrétiser une vie religieuse fascinante, hein, je me suis dit, eh bien, on va essayer de faire un peu l'analogue pour la vie, pour l'esprit dominicain des exercices de Saint-Ignace. Et donc j'ai pris, comme le père Aubry l'a évoqué tout à l'heure, le schéma du rosaire, ce qui fait que j'ai commencé à prêcher le rosaire en juillet 79 dans l'oratoire Lacordaire de Flavigny, là où Lacordaire avait fait ses pénitences, 2 mois avant la fondation. Donc ça, c'était une idée que j'avais dans la tête, et j'en avais une autre. C'était parce que les communautés où je suis passé m'ont beaucoup apporté, j'ai beaucoup aimé, mais il me semblait que la formation proprement doctrinale proposée aux fidèles laïcs en particulier avait besoin d'être étoffée. Et donc je me suis dit, on fera des sessions de formation intellectuelle doctrinale sur la philo, la théologie, la doctrine sociale de l'Église, le règne du Christ au roi, etc. Et en effet, ça a pris corps assez vite par une formule qu'on a appelée Eterni Patris, du nom d'une encyclique de Léon XIII, pour le Nouveau Thomiste. Après, il y a eu d'autres formules, les journées de Chémeray, la journée Foi et Raison, etc. Et puis, ça finit par aboutir à Aquinas. Donc, j'avais déjà l'idée de ces lignes-là, avec aussi un peu, un souci de... la revue dont a parlé le père Aubry était déjà un peu dans mon esprit, parce que je pensais que, la famille de pensée traditionnelle, au sens large, que je connaissais bien parce que mon frère Hugues a longtemps travaillé avec Monsieur Madiran, qui a fondé la revue Itinéraire, avait besoin de prendre vraiment très au sérieux son enracinement intellectuel et historique. Donc, en effet, ça, c'était un petit peu prévu. Et après, la façon dont ça s'est réalisé a dépendu des possibilités, des occasions, et puis du profil, au fond, de chaque frère, parce que dans notre tradition, on actualise une idée commune, mais en fonction des profils de chacun. Ce qui fait qu'un jour, on m'a dit, vos frères sont tous semblables, mais sont tous différents. Donc, c'est plutôt un compliment. Ça, c'est pas des clones, si vous voulez, du gourou. Mais comme vous le constatez en voyant le père Aubry et quelques autres, Ils ont chacun leur personnalité. Et ça, c'est très chrétien, très thomiste et très actuel.
Le rite dominicain n'est pas forcément le plus connu des rites de l'Église catholique. Quelle est sa singularité, mon père, et en quoi apporte-t-il quelque chose de plus spécifique à votre vie religieuse? Est-ce que ça donne une forme plus particulière,
Oui, tout
qui
à fait.
évidemment informe votre
Tout
style?
à fait. Moi, je connaissais surtout le rite byzantin qui était l'occasion de mes premières années de conversion étaient à Saint-Julien-le-Pauvre. Et puis le rite romain, bien sûr, que j'ai célébré pendant 3 ans. Mais la tradition de l'ordre, c'était que nous avions un rite propre, enraciné dans les rites latins classiques, hein, tels qu'ils étaient célébrés dans différents diocèses en Europe au XIIIe siècle, XIIe, XIIIe siècle. Et nous avons approfondi et découvert la richesse dans la grande sobriété, en même temps la somptuosité dans la messe solennelle de ce rite qui est extrêmement beau et qui, l'un de mes confrères liturges me disait au fond, quand il y a une différence entre vous et le rite strictement romain, vous êtes un peu plus ancien. Et de fait, on a été amené à relire ce qu'on appelle le prototype d'Humbert de Roman, le premier texte, et j'ai révisé la traduction, et je me suis aperçu qu'à la messe solennelle, on faisait exactement ce qui était fait il y a 8 siècles, et c'est quelque chose avec des déplacements, avec chaque ministre principal a des ministres inférieurs qui l'accompagnent, il y a quelque chose de très grand, et je pense que ça souligne aussi l'idée que l'unité n'est pas l'uniformisation. Oui. Donc je pense que c'est très bien que Saint Pie V ait préservé son propre rite, si j'ose dire. Et je pense qu'aujourd'hui, dans les controverses actuelles, on gagne à redécouvrir peut-être cette dimension-là.
Cela nous amène évidemment à des questions de grande actualité dans la vie de l'Église. Évidemment, je laisse le père qu'il souhaitera répondre à ces questions. On entend beaucoup parler de mutation du monde catholique, d'arrivée de nouveaux convertis, de nouvelles franges au sein de l'Église. Est-ce que vous le constatez au sein de la fraternité Saint-Vincent-Ferrier? Est-ce que ça a dû vous permettre d'adapter des modes d'apostolat pour toucher ou réussir à rencontrer les cœurs et les intelligences de manière différente. Est-ce que finalement vous constatez vous-même ces mutations ou au contraire vous trouvez qu'on en fait beaucoup sur cette thématique et qu'elle mériterait d'être relativisée?
Alors, je crois qu'il y a une vraie mutation. Alors, mutation, le mot est peut-être fort, puisque les sociologues hésitent pour savoir si ça transforme vraiment le corps social ou bien ce sont simplement des vaguelettes en surface. Et moi, qui ne suis pas sociologue, je me garderais bien de juger sur le long terme. En revanche, comme praticien du terrain apostolique dans la vigne du Seigneur, on voit évidemment ces transformations du public et l'arrivée de nouvelles troupes, de nouveaux croyants hein, qui sortent un peu de nulle part, hein, si on permet l'expression, en tout cas de régions inattendues, avec des attentes très fortes. Hein. Ça, je pense que c'est général. L'arrivée de ces nouveaux baptisés, de ces nouveaux jeunes chrétiens, on la constate dans tous les secteurs de l'Église, et aussi en direction du monde traditionnel. Et je pense que la demande est la même pour tous ceux qui viennent frapper aux portes de l'Église aujourd'hui, c'est vraiment le souci de Dieu. Dans une société qui a mis Dieu à la porte, il revient par la fenêtre, enfin. Il y a quelque chose comme ça, comme si, alors que nous sommes complètement en fin de cycle de la modernité, on voudrait être dans la postmodernité, donc bien loin de ce monde qui accrochait toute son existence et sa vie à un principe premier, eh bien, on voit que les hommes y reviennent tous, hein, et de façon assez fondamentale, avec des attentes à la fois personnelles, familiales et aussi sociales et politiques, puisqu'on se rend compte de plus en plus que cette vie sans Dieu, en plus d'être triste, elle devient dangereuse. Hein. Et les lois qui viennent à l'Assemblée décennie après décennie, dont on nous dit qu'elles sont le nec plus ultra de la vie libre de l'homme et de la liberté conquise, acquise, elles nous manifestent de plus en plus une liberté qui s'est rebellée contre l'homme lui-même, qui met l'homme en danger. Hein. Et donc je pense que dans ce contexte, de nombreux humains, tout simplement, qui sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, hein, tous, eh bien, saisissent, ressentent le besoin de se retourner vers leurs principes, et assez spontanément, assez sainement, je dirais, ils frappent à la porte de la maison familiale qui est l'Église catholique.
Une des autres questions qui obsède un petit peu, au moins les commentateurs, mais les fidèles, c'est ce qu'on appelle la question des vocations, la crise des vocations, la difficulté d'avoir des vocations. Vous êtes dans une situation un peu particulière, puisque vous avez dû construire une nouvelle église conventuelle, à la fois parce que le nombre de frères s'accroissait, et puis parce que il y avait des fidèles qui étaient plus nombreux à devoir être accueilli. J'imagine que c'est une joie, mais c'est aussi un défi. Est-ce qu'il y a eu une même évolution entre ces nouveaux fidèles qui apparaissent et ces nouvelles vocations qui apparaissent, ou est-ce que, au contraire, l'appel du Seigneur demeure très semblable? Et est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de ces vocations, j'allais dire à la fois dans la manière dont vous les accueillez et dans les conseils que vous faites aux jeunes hommes qui nous écouteraient ou qui visionneraient cet entretien et qui se poseraient des questions pour savoir si ils doivent toquer à la porte de la Fraternité Saint-Vincent Ferrier ou d'un autre institut?
Père Augustin a été longtemps maître des novices, donc il est bien placé pour vous.
Oui, alors il y a plusieurs questions dans votre question.
Oui, c'est une habitude mauvaise, mais c'est une habitude.
Je dirais d'abord qu'il faut répondre à ces choses-là avec modestie. Nous avons, grâce à Dieu, pour notre fraternité, dont le nombre reste modeste, des vocations qui viennent régulièrement chaque année. Nous avons quelques jeunes gens, quelques candidats qui se présentent. Ce n'est pas des foules, hein. Ça n'est pas comme à l'époque de Jourdain de Saxe au XIIIe siècle, qui, lorsqu'il prêchait à l'Université de Paris, raflait par dizaines, voire centaines, des étudiants dans les classes pour les faire venir dans le cloître. On en est bien loin, hein. Mais nous avons des jeunes gens qui viennent régulièrement. Les profils sont assez variés. Sur les petites cohortes que nous recevons, c'est difficile de faire des statistiques très précises, premier point. Ensuite, quels seraient les conseils à donner à des jeunes gens qui aujourd'hui s'intéressent à la vie religieuse ou bien ont cette angoisse de leur propre salut, du salut du prochain? Je pense que les deux points importants, les deux coordonnées essentielles, c'est la vie de prière et l'équilibre humain. La vie de prière, parce que c'est ce qui signe le fait d'une vie chrétienne authentique. Si on souhaite donner sa vie pour le service de Dieu, il faut que cette réalité soit au centre de ma vie, comme un compagnonnage permanent, comme une amitié. Et ça se fait par la prière. Et l'autre aspect, c'est l'équilibre humain. Dans une société qui ne fait pas que des dégâts, mais en fait beaucoup, on voit bien que les psychologies, l'approche du réel, le sentiment d'appartenance, le rapport à l'autorité sont des choses qui sont parfois très dégradées, hein, jusque dans la famille. Et c'est un enjeu, évidemment, si l'on veut s'introduire dans une communauté, y trouver toute sa place et y donner sa pleine mesure. Par analogie, la question se pose aussi bien dans le monde professionnel ou la vie associative ou la vie familiale, hein, mais assez fortement dans la vie religieuse, puisque quand on rentre dans une communauté, eh bien, les frères, on les aura toute sa vie, hein, ça n'est pas à durée déterminée. Et il faut les aimer, les supporter et grandir ensemble pour se faire grandir mutuellement. C'est vraiment un véritable enjeu. Et quand on a l'intuition, le sentiment, l'idée que Dieu nous appelle, eh bien, il faut tout simplement prendre son courage à deux mains, aller prendre conseil, et puis rencontrer des maîtres de novices dans différentes maisons religieuses pour trouver celle où Dieu nous attend, c'est-à-dire où nous pourrons déployer les capacités qu'il nous a données, simplement.
Père de Blinière, peut-être une question complémentaire. Je vous ai régulièrement entendu prêcher sur le rôle de la famille, et la famille qui ne doit pas être terrorisée de la vocation qui arrive et qui doit l'accompagner et s'en réjouir. J'ai dû vous entendre deux ou trois fois dire la chose, parce que ça me revient pendant que le Père Aubry répond. Pourquoi est-ce que ça vous paraît important de le dire?
Eh bien, parce que Les parents sont les premiers éducateurs et une vocation qui naît dans le sein d'une famille chrétienne, c'est une bénédiction. Ça montre que les parents ont transmis d'une façon ou d'une autre, hein, c'est peut très varié, l'amour du Christ. Et ensuite, ce qu'on a remarqué, c'est que très souvent, le départ de quelqu'un, même si au début il est un peu une source d'interrogation, voire de souffrance, en retour, j'ai eu plusieurs témoignages directs, on m'a dit, ben, un tel qui est parti, finalement, c'est le ciment d'unité de la famille maintenant, parce que lui, il est engagé dans aucune chose de succession ou de problème professionnel, il peut conseiller pour se voir les uns ou les autres. Donc, c'est une chose très bénéfique, comme disait le cardinal Sarah, il disait, ben, écoutez, quand vous invitez des gens à table et tout, dites du bien des prêtres et des vocations, parce que, et des religieuses, parce que là, les enfants sont édifiés et ils ont envie, voilà, de suivre. Et un autre aspect qui me revient à l'esprit en vous parlant, c'est le fait que l'union, l'unité du papa et maman, du père et de la mère, a une importance absolument décisive. Et on a pas constaté que parfois, l'équilibre dans la vocation se réalise plus facilement chez quelqu'un dont les parents, même non croyants ou peu croyants ou peu pratiquants, etc., sont vraiment unis, que dans un ménage éventuellement catholique qui ne, voilà, qui serait disloqué ou qui ne s'entendrait pas. Alors je dis ça sans en faire une exclusive, hein. Mais c'est vrai que ça a une telle importance de voir la possibilité d'un amour stable entre deux êtres humains que vraiment c'est fondateur pour l'avenir des enfants, spécialement pour la vocation.
Ultime question, elle va s'adresser à vous deux, parce qu'on a parlé de la fraternité Saint-Vincent Ferrier, de son inspiration, de son style de vie, de ses apostolats. Mais elle est cette fraternité a choisi un lieu, la Mayenne, à Chéméré-le-Roi. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots d'abord, Père de Blinière, sur ce qui fait la providence, le hasard, d'autres éléments qui font que vous ayez choisi de devenir Mayennais?
Alors oui, je l'ai choisi, enfin je l'ai accepté, parce que c'est tombé tout à fait, j'étais en service à Saint-Nicolas-du-Chardonnay à l'époque et je cherchais un point d'implantation pas trop loin de Paris, voilà. Et mon frère, qui était à l'époque moine à Flavigny, m'a dit, ben, adresse-toi à un tel, Bertrand Lenaille, qui vend des maisons dans tout l'Ouest. Je lui téléphone et Bertrand me dit, mon père, je vois ce qu'il vous faut depuis ma fenêtre. Et donc, j'ai été voir chez lui. Et de fait, à l'époque, on voyait depuis sa fenêtre. Et j'étais impressionné parce que ça ressemblait au Morbihan. À l'époque, il y avait des bocages, donc ça m'a plu, quoi. Et j'ai visité ça avec un frère qui connaissait l'architecture. Il m'a dit, c'est bon, tu peux y aller. Alors, j'avais rien dans ma poche, mais j'ai signé, voilà, j'ai été. Et c'est comme Charlier qui disait, quand on, il faut accepter d'être seul, et quand on l'a accepté, on s'aperçoit qu'au fond, on n'était pas, quoi. Donc, j'ai fait le premier pas. Et finalement, je ne regrette pas parce que on est assez au calme. On est vraiment, il y a 700 000 bovins et 300 000 humains par chez nous, qui sont des gens plutôt calmes et c'est stable. Voilà, donc on a un environnement qui est stabilisant, disons. Mais en même temps, on a le TGV à Sablé qui nous met à 1h10 de Paris. Et puis, on est au centre barissant du Grand Ouest avec toutes les grandes villes. Donc, ça s'est trouvé comme ça. Et je regrette pas du tout parce qu'on a construit autour du petit château de départ la structure qu'il nous fallait en mettant le temps. Mais c'était finalement une option providentielle.
Aujourd'hui, Père Aubry, des auditeurs ou des visionneurs qui veulent suivre l'actualité de la fraternité, la rencontrer, qui auront envie, après cette première partie d'entretien et sans doute après les deux autres, de mieux vous connaître, quelles sont les indications qu'il faut leur donner?
Eh bien, s'ils veulent venir pendant leur trajet de vacances dans l'Ouest, ils sont les bienvenus à Chéméré-le-Roi, entre Sablé et Laval. Mais s'ils ne peuvent pas se déplacer, ils peuvent via Internet découvrir notre site Internet chemere.org, chemere.org. Et encore, s'ils veulent rencontrer les frères via notre prédication, notre apostolat principal, ils peuvent se rendre sur notre chaîne YouTube qui s'intitule « Des pères qui prêchent ». Des pères qui prêchent sur YouTube. Et ils pourront découvrir toutes sortes de formations que nous avons données depuis ces dernières années. Il y a plusieurs centaines de vidéos sous toutes sortes de sujets de la vie chrétienne et du catéchisme qui permettent de saisir ce que nous tâchons de faire comme fils de Saint-Dominique.
Nous allons faire notre première pause musicale et après celle-ci, le Père Aubry, qui est plus mélomane que moi, nous expliquera quel est le morceau que nous venons d'écouter.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Vous êtes de retour dans le Libre Journal des débats de Radio Courtoisie, dirigé ce soir par Charles de Meyer. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir le père Louis-Marie de Blinière et le père Augustin-Marie Aubry, respectivement fondateur et prieur de la fraternité Saint-Vincent Ferrier. Père Aubry, est-ce que vous arrivez à prononcer le nom de la musique, puisque vous avez eu l'aimabilité de me l'envoyer, mais je suis médiocrement japonisant. J'imagine que vous avez dû faire des progrès récents qui nous permettent d'avoir le titre.
C'est pas très facile pour moi non plus.
En tout cas, vous pourrez retrouver toutes les informations sur le site internet de Radio Courtoisie au moment de la diffusion de cette émission. Pardon de ce manque de capacité à prononcer le japonais. Nous en venons à la deuxième partie de cette émission, puisqu'entre autres missions, le Père Louis-Marie de Blinière publie régulièrement. Toujours chez Dominique Martin Morin, vous êtes un homme de tradition, Père de Blinière.
Oui, tout à fait.
Votre ouvrage s'appelle « La vie en Christ avec les pères de l'Église et saint Thomas d'Aquin ». Vous avez une préface de Mgr David Macaire qui visiblement a bien aimé le livre.
Oui, tout à fait. Il est enthousiaste de nature, mais là, il s'est déchaîné dans son enthousiasme.
En tout cas, c'est un premier bon signe. Dans l'introduction générale que vous faites de l'ouvrage, vous écrivez « Mon père ». Pour décrire l'ambition de ces entretiens, puisque vous allez nous expliquer un peu le format du livre, ce sont, si j'ai bien compris, une série d'entretiens sur les sacrements, vous écrivez ainsi. D'une part, souligner l'intime union de la spiritualité avec les dogmes de la Trinité et de l'incarnation rédemptrice. D'autre part, insister sur la source sacramentelle de la spiritualité.
Voilà. C'est très bien. En fait,
oui, c'est de vous, en effet.
Parce que les anciens prieurs, il leur arrive aussi d'obéir. Et donc, mon prieur, là, me dit, je vous suggère de faire un cours à la radio, un cours de spiritualité. Et donc, on a pris contact avec Radio Fidélité à Laval. Et un an après, j'ai apporté à mon prieur un livre, parce que comme c'était des entretiens, il fallait que ce soit rédigé. Et donc, j'ai rédigé des formes... j'ai rédigé sous forme de paragraphes, enfin de petits, oui, de paragraphes, qui puissent se prononcer en 10-12 minutes, quoi. Et comme trame directrice, j'ai pris celle, en effet, qui est indiquée là, à savoir que c'est aussi le fruit, disons, d'années d'enseignement, de prédication, de méditation, hein. La vie chrétienne est enracinée dans le dogme, donc on part vraiment à chaque fois d'une scène de la vie du Christ, hein, son baptême. Ensuite, on part de la descente du Saint-Esprit à la Pentecôte, et puis la scène le jour de l'instauration de l'Eucharistie. Donc, on part d'un événement de l'incarnation, et après, on embraye sur le sacrement auquel il a en quelque sorte donné naissance, à savoir le baptême, la chrismation, comme disent les orientaux, enfin la confirmation, et puis l'Eucharistie. Et de fait, c'est les trois sacrements qu'on appelle ceux de l'initiation chrétienne, que les orientaux, d'ailleurs, donnent tout de suite dès le baptême. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très précieux de faire ce lien, la source évangélique révélée, si vous voulez, en fait, qui est le contact avec le Christ, le sacrement qui nous met en contact avec ça, et ensuite on déploie à partir de là les richesses du sacrement en analysant chacune de ses parties, par exemple pour le baptême, la foi, la vie éternelle, etc., en analysant même des éléments du rituel, et puis ensuite les conséquences que ça a pour nous, en particulier pour la mission du Saint-Esprit, la Pentecôte. On parle de tous les dons du Saint-Esprit qui ont une très grande importance dans la vie spirituelle et qui sont malheureusement pas suffisamment développés souvent par les prédicateurs. Ça revient maintenant depuis quelques dizaines d'années, l'importance de la vie mystique et les dons du Saint-Esprit est de plus en plus présente. Et j'ai voulu incarner ça de façon suivie, un peu pédagogique, voilà. Et ça a donné ce livre.
Vous parlez dans cette introduction du caractère doublement objectif de la spiritualité chrétienne et à la veille de la lecture d'un ouvrage de spiritualité, on peut se demander ce qu'il y a d'objectif là-dedans. Au contraire, ça peut paraître ambigu pour certains de nos lecteurs. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par ce caractère doublement objectif de la spiritualité chrétienne ?
Alors oui, doublement objectif, c'est qu'en fait, le Christ est une réalité qu'on atteint pleinement par la foi, mais déjà, c'est une réalité crédible. Moi, j'ai vécu 4 ans et demi d'athéisme, dans laquelle je respectais l'Église et le Christ, parce qu'il m'apparaissait, d'une certaine façon, répondre à certaines aspirations de la raison. Et ensuite, quand je suis devenu plus sage, disons plus pieux, j'ai même écrit un livre qui s'appelle « Le christianisme est crédible », préfacé par Monseigneur, ancien archevêque de Bruxelles. Et ensuite un autre préfacé par le cardinal Sarah, l'Église est crédible. Et ça, c'est des éléments objectifs. Et je crois ça très important parce que pour beaucoup de gens, l'image de la spiritualité, c'est un truc un peu vaporeux, gentil, qui est fait pour ma grand-mère qui dit son chapelet ou pour les dames qui sont bien gentilles, mais qui est pas trop fait pour les hommes ou les gens un peu virils. Voilà, on se demande où se trouve la raison. Or, justement, découvrir Saint Thomas, découvrir les grandes richesses de la tradition des pères de l'Église, c'est découvrir, comme je l'ai dit un jour, on m'interrogeait pourquoi, après votre conversion, vous avez choisi le christianisme. Je réfléchis un peu, je dis, écoutez, il me semble que c'est là où se trouve le plus de raison. C'est un peu aussi ce qu'a développé, avec plus d'autorité, Cardinal Ratzinger dans différentes interventions. Le lieu où la raison est satisfaite et dépassée aussi, c'est quand même le christianisme. Donc en enracinant notre vie spirituelle dans l'histoire et le mystère du Christ, on a un premier élément très objectif. Et puis un autre élément objectif, c'est l'Église. L'Église qui n'est pas une simple apparence. Aujourd'hui, il semble malheureusement que devant la crise dans l'Église, c'est mieux de parler comme ça, certains de nos amis, nos confrères se réfugierait un peu dans une sorte de docétisme ecclésial. Bon, en fait, docétisme, vous voyez, c'est une hérésie qui disait le Christ paraît être un homme, mais en fait, il l'est pas vraiment. Non, l'Église paraît pas seulement être l'Église, elle est vraiment l'Église, et elle subsiste dans les successeurs des apôtres et celui qui est, en effet, le chef du corps épiscopal, le souverain pontife. Donc, et cette Église qui est une réalité nous met au contact du Christ, c'est au moins le Christ et la grâce qui nous convertissent, mais nous met au contact du Christ, parlant à la prédication, bien sûr, et aussi, de façon très importante, par les sacrements. Et c'est ce que j'ai voulu développer, que le baptême, la confirmation, l'Eucharistie sont une mise en contact par la grâce sacramentelle avec la grâce du Christ, avec le mystère du Christ, et une mise en contact très, très inspirante, si vous voulez. Quand on analyse là, ce que j'ai essayé de faire, par exemple, tout ce qui peut être contenu autour et dans l'Eucharistie, dans son institution, de ce qu'elle suppose, ce qu'elle véhicule, alors on est ébloui, quoi. Voyez-nous, ça fait quoi? Maintenant, ça fait bientôt 50 ans que je suis prêtre, hein, et je suis toujours étonné, au fond, que la messe, c'est formidable, quoi. Comme dit le père Aubry, on a trop de la chance, quoi. Non, mais c'est incroyable, quoi. Non, on assiste à une messe solennelle. Moi, maintenant, je la célèbre au moins parce que je suis un petit peu moins valide, disons. Mais en fait, j'y assiste, et à chaque fois, je me dis, mais c'est fantastique, vous voyez, ça me rappelait les messes de rite arménienne que j'ai vues à Echmiadzin, ou bien de rite byzantin, que je suis un peu plus habitué au Roussicon ou ailleurs. Et à chaque fois, j'ai le même sentiment, à savoir que vraiment, il y et un déploiement chorégraphique, musical, odorifique avec l'encens, visuel, auditif du Christ, quoi. Et donc ça, quand on le monnaie dans une méditation, c'est extrêmement enrichissant. Et même quand on fait l'oraison, nous, on fait l'oraison de la tradition dominicaine, les oraisons secrètes, c'est en fait la méditation, on la fait à l'église, en contact avec la présence, quoi. Et au fond, ça change tout, quoi.
Pour nos auditeurs athées ou moins connaisseurs, moins versés dans la chose chrétienne et catholique, surtout catholique plus exactement, les sacrements peuvent parfois paraître être des choses difficilement accessibles. On leur a reproché leur aspect magique ou leur aspect de domination du Créateur sur les créatures et donc paraître un petit peu moins accessibles à l'être humain, surtout l'être humain déchristianisé. Très visiblement, à la lecture de votre ouvrage, vous pensez exactement l'inverse, mon père.
Enfin, j'ai découvert, hein, parce que j'avais un peu ça au début, quand j'étais athée ou agnostique dur, disons, mais voilà, je me disais, qu'est-ce que c'est que toutes ces simagrées? Et puis, je dirais à vos auditeurs, donc j'ai été le confrère autrefois dans l'agnosticisme, marche dans la lumière que tu possèdes, vers la lumière que tu désires. C'est une phrase qui est dans le corpus augustinien. Dans la lumière que tu possèdes, vers la lumière que tu désires. Et quand on fait les pas successifs, on s'aperçoit qu'en fait, c'est une entrée dans la liberté. Et je suis frappé parce que c'est un peu un des aspects de notre héritage historique, c'est l'Église respire par les deux poumons, occidental et oriental. Et vous savez que chez les orientaux, spécialement chez les Byzantins, on souligne davantage l'aspect de la réception. Et quand on fait le signe de croix, on le fait comme si quelqu'un en face nous bénissait. De même, quand le prêtre fait le baptême ou donne la communion, il dit « le serviteur de Dieu, un tel, reçoit le corps, etc. » Le latin insiste davantage sur l'action du ministre « je te donne le corps du Christ ». Voilà. Et en fait, c'est une complémentarité extraordinaire. Et de fait, si on approfondit bien la richesse liturgique, surtout avec sa variété, qui je crois est, je dirais presque, elle est essentielle parce que le mystère est tellement riche, on s'aperçoit qu'une pédagogie un peu contraignante au début, il y a du silence, il y a des positions, on se met à genoux, ou bien on se prosterne chez les Syriaques, on fait la métanie chez les Byzantins, c'est très intelligent. Parce qu'on rentre, vous voyez, ce matin j'ai dit la messe avec exactement les mêmes signes, a fait quelqu'un qui avait un bon QI, qui s'appelle saint Thomas d'Aquin, il y a 800 ans. Et bien ça, c'est complètement libérant. Parce qu'on peut vraiment, on est libéré par une chose qu'on sait vraiment d'instinct et qui a été sanctifiée par des gens. Et donc, c'est vrai qu'il ne faut pas se cacher qu'il y a une... il faut se bousculer un peu au début. Hein. C'est sûr que... Par exemple, rentrer dans une église, il y a des gens qui n'osent pas le faire. Ils ont peur d'être contaminés, sans quoi ils ont raison, parce que ça rayonne à partir de l'Eucharistie. Mais au fond... Si on est loyal, on applique ce que dit Blaise Pascal. Hein, je ferai les gestes. C'est ce que j'ai fait moi dans ma première retraite. Hein. Je ferai, etc., bien tout ce qu'on me dit. Et au fond, pourquoi pas? Et après, on s'aperçoit que dans le cœur, quelque chose, j'allais dire, pas craque, mais s'ouvre. Et qu'on est au contact du réel. Quoi. Moi, j'ai eu très fort ce sentiment à ma première retraite, quand j'ai fait ma confession générale. Et puis après, le jour de ma vocation... On voit les prêtres qui rentrent pour la messe du Jeudi Saint, qui étaient des prêtres assez marginaux à l'époque, hein, et qui m'ont touché par leur courage, leur discrétion, leur humilité. Il y avait des vieux, il y avait des... Voilà. Et quand je les ai vus rentrer, je me suis dit, allons nous aussi et mourons avec lui, quoi, comme a dit l'apôtre quand Jésus montait à Jérusalem. Et au fond, on est touché par l'humilité de se mettre dans une tradition qui nous libère et qui nous enrichit.
Cela fait parfaitement notre jonction avec la première partie de votre ouvrage, Bon Père, puisque il en est un qui rentre paradoxalement dans une tradition qui, pour le coup, ne devrait pas le dépasser, c'est le Christ, qui accepte d'aller au-devant de Saint Jean-Baptiste pour lui demander de recevoir le baptême de Saint Jean-Baptiste. Ce qui pourrait paraître paradoxal, pourquoi le Fils de Dieu a-t-il besoin d'être baptisé? Et c'est l'occasion du début de votre réflexion sur le baptême.
Oui. Le baptême du Christ. Alors c'est assez fascinant, d'autant plus qu'on a pu mettre sur la couverture quelque chose qui vient de notre retable. Hein. Donc le baptême du Christ. C'est assez fascinant. Et au point de vue de la crédibilité du christianisme, c'est développé de façon magnifique par Lacordaire dans les conférences de Notre-Dame, en disant, au fond, le Christ, c'est la seule religion le Christ, c'est le seul, disons, homme religieux qui se soit prophétisé des siècles en avance. Si vous essayez de faire ça, vous aurez du mal, quoi. Et en fait, le Christ ne veut pas arriver comme un fondateur charismatique, au mauvais sens du terme, comme les cheveux sur la soupe, qui dit, vous voyez, moi je fonde un nouveau truc, quoi. Il s'inscrit dans une tradition dont Bossuet a bien monté, qui remonte à la religion d'Adam et Ève, et puis celle d'Abel, et puis de Melchisédek, etc. Et ensuite la révélation à Abraham. Il se prépare lui-même. Au fond, le Christ aime bien la tradition, au sens profond du terme, hein. Et il se reçoit lui-même de l'Écriture, et en fait, quand il va faire une vie qui est en fait la réalisation de choses qui sont prédites, quelquefois dans les détails, mais en tout cas dans l'essentiel, depuis des siècles avant. Et pour quelqu'un comme Blaise Pascal, même déjà avant saint Thomas d'Aquin, et aussi le père Lagrange, fondateur de l'école biblique, c'est l'argument fondamental de la vérité du christianisme, c'est la réalisation des prophéties, les prophéties qui se réalisent et qui s'accompagnent d'une doctrine éblouissante, on peut bien le dire. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, le fait qu'il a accepté de se faire baptiser est fascinant.
Vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie. Charles de Meyer a le plaisir et l'honneur de recevoir le père Augustin-Marie Aubry et le père Louis-Marie de Blinière, père Louis-Marie de Blinière qui publie « La vie en Christ avec les pères et saint Thomas » chez Dominique Martin Morin. Évidemment, l'ouvrage est très riche, je ne vais pas pouvoir revenir sur toutes les parties de l'entretien, notamment sur celui du baptême. J'ai trouvé simplement la partie sur le péché originel particulièrement stimulante, péché originel qui, pour le coup, est un scandale pour le monde contemporain, pour le monde évidemment, mais alors pour le monde contemporain encore davantage. On a senti une volonté de mettre les leçons que cela donne à l'homme et à sa possibilité de libération au cœur de la réflexion. Est-ce que je me trompe et pourquoi, mon père ?
Non, Charles, vous êtes extrêmement perspicace. Je vois que vous avez bien profité des leçons du père Aubry, entre autres.
Oui, j'ai récupéré son astuce, surtout.
Voilà. Et en fait, vous savez, Chesterton dit, les gens doutent du péché originel, mais je crois que c'est la seule chose qui est certaine. Alors, il exagère un petit peu, enfin, disons, naturellement, elle est fort probable et elle est certaine dans la foi. Mais finalement, le péché originel, c'est la bonne nouvelle. Alors, c'est un paradoxe britannique, mais Dieu a créé les Britanniques aussi pour faire ça, quoi. Ça nous conduit dans une part de la réalité. Et de fait, c'est développé de façon, je dirais, presque excessive par Blaise Pascal. Et donc, quand on lit Blaise Pascal, qui construit son apologétique autour de ça, il faut aussi lire le cardinal Journet, Vérité de Pascal, qui explique bien les choses. Mais le péché originel, si vous voulez, projette, si vous voulez, sur... quelque chose qui serait un absurde radical, si vous voulez, l'absurde de la souffrance, de la mort, etc., il renvoie à l'obscurité du péché, dont nous sommes responsables, si vous voulez. C'est très bien expliqué aussi par les commentateurs de le père Lagrange et d'autres, père Garrigou Lagrange, le fait qu'on découvre que le pécheur, que toute la situation désorganisée de la nature est causé par l'usage désordonné de la liberté. Et donc ça, c'est très éclairant. Évidemment, ça reste choquant, hein, c'est quelque chose de... Mais le christianisme a un aspect de... Enfin, c'est pas détergent, mais je veux dire, c'est pas un truc qu'on s'endort, hein. Moi, ça m'a vraiment impressionné de relier, si vous voulez, c'est le catéchisme de l'Église catholique qui dit, en fait, la chute du début se comprend dans le visage du Christ. Enfin, Pascal dit, il est dangereux à l'homme de connaître sa misère, s'il ne peut connaître celui qui l'en peut sortir, qui l'en peut tirer, le rédempteur qui l'en peut guérir. Et de fait, saint Paul a révélé le péché originel après que le Christ nous en ait sauvés. Et donc, péché originel, on contemple dans les plaies du Christ qui précisément prend sur lui pour nous en sortir.
Aussi écrivez-vous, mon père, Dieu aurait donc pu libérer l'homme sans exiger de compensation de sa part. Mais il a voulu que l'amitié entre lui et l'homme soit pleinement retrouvée après l'offense du péché. Il a fait en sorte que celle-ci soit compensée par une réparation qui vienne de l'humanité, la passion de son Fils vrai Dieu. On peut même dire que l'offense du péché est surcompensée par la passion, car la satisfaction offerte par le Christ est surabondante. Est-ce que cela vous inspire quelque chose?
Oui, en fait, c'est une chose aussi qui, il y a beaucoup de choses qui fascinent. Les dominicains sont des gens qui se laissent fasciner pour après pouvoir transmettre. Et de fait, cet aspect de la réparation, que j'ai découvert comme, bien sûr, dans Saint Thomas, on a fait des articles dans notre revue, la satisfaction qui est au cœur aussi de la problématique liturgique sur la forme expressive à donner à ce mystère dans la liturgie, est quelque chose de splendide, si vous voulez. Et donc, c'est un mystère particulièrement irritant, si vous voulez, ou douloureux, hein, mais c'est vraiment, je dis aux gens, mais écoutez, secouez-vous, quoi. C'est quand même incroyable que Dieu vienne souffrir à notre place, quoi. Bon. Et donc, il faut se secouer un peu. Mais quand on, il faut pas trouver que c'est, voilà, tranquille, bibi, Jésus, sweet, machin, tout doux, doudou. Non, le Christ est venu pour prendre sur lui ce que nous, on a fait. Mais comme on est comme il a pris notre nature, par le baptême, nous sommes unis à ça, et donc, il nous sauve et nous nous sauvons en lui. Il a voulu que nous agissions, vous voyez. Je crois que j'en parle dans mon livre, on peut gracier un coupable, si vous voulez. Bon, allez, il a fait une faute, le chef de l'État peut le gracier. Mais on ne peut pas dire qu'il se rachète. Mais celui qui accepte, si vous voulez, la souffrance pour son rachat, moi j'ai un exemple que j'ai vécu, hein, parce que j'ai un droit commun, si vous voulez, enfin, qui avait été en prison avec un prêtre criminel. Et ce prêtre criminel, et donc qui faisait l'admiration de ce droit commun, a refusé toutes les diminutions de peine qu'il pouvait refuser. Et il a dit, parce que je veux expier. Et on peut dire, voilà, il voulait se racheter, participer au rachat du Christ. Et donc, c'est magnifique, quoi, de voir que le christianisme nous donne ça, quoi. On est acteur de sa rédemption, mais bien sûr, c'est le Christ qui nous rachète principalement.
Alors, on est acteur de sa rédemption et on entre dans la vie chrétienne par ce premier sacrement de l'initiation qui est le baptême, qui est l'objet de toute la première partie de votre ouvrage « La vie en Christ avec les Pères et Saint Thomas chez Dominique Martin Morin ». Mais cette vie, elle va demander être exigeante pour le chrétien. C'est toute l'occasion de votre réflexion sur la confirmation. Et pour vous, finalement, la confirmation, c'est le sacrement du combat spirituel. Est-ce que je peux le résumer comme ça, ou est-ce que c'est très excessif?
Oui, c'est le sacrement de l'adultisme chrétien, si vous voulez, et du combat spirituel. Les deux aspects sont vrais, tout à fait.
Ainsi, vous écrivez, devenir parfait comme le Père Céleste, quel programme audacieux. Et c'est cela que les confirmés doivent viser.
Oui, tout à fait. Et en fait, la confirmation, si vous voulez, vous savez, on dit... Traditionnellement, dans les auteurs spirituels disent, il y a la vie purgative pour les commençants, la vie illuminative pour les progressants, et puis la vie unitive pour les parfaits. Et le père Garrigou-Lagrange disait, il y a beaucoup de gens qui ne sont ni l'un ni l'autre, mais sont des attardés. Voilà. Moi, dans mon ministère, j'ai constaté qu'en effet, il y a, après la première conversion, la prise de contact dans un pèlerinage ou une retraite vraiment avec le mystère du Christ, il peut y avoir une période de stagnation parce qu'on ne compte pas assez sur les dons du Saint-Esprit. Et parce que les prêtres ou les éducateurs, maintenant moins, mais autrefois c'était plus le cas, ne soulignent pas assez la dimension mystique de la vie chrétienne, à savoir l'action, la docilité aux dons du Saint-Esprit. Et on peut dire que depuis le premier tiers du XXe siècle jusqu'à nos jours, il y a vraiment un développement magnifique chez les auteurs spirituels, dominicains, carmes et d'autres, de cette doctrine, que les dons du Saint-Esprit font partie de la vie chrétienne et que la vie mystique où ces dons sont dominants fait partie de l'appel normal du chrétien à la perfection. Et donc ça, aujourd'hui, je crois que ça commence à être reçu et on peut dire que c'est un des combats que les traditionnels, pour ne pas dire les traditionalistes, comme le père Garrigou-Lagrange, ont gagné. Comme quoi, on ne perd pas toujours. Quoi. C'est plutôt sympathique, quoi.
Il y a un terme qui hérissera peut-être nos auditeurs les moins connaisseurs du vocabulaire chrétien et catholique, c'est la question du combat spirituel, du combat chrétien. Comment faut-il l'entendre finalement un auditeur qui nous dirait « Oulala, mais moi j'ai cru rencontrer une religion d'amour et un regard d'amour qui se posait sur moi » et là vous me parlez de combat d'armature spirituelle. Qu'est-ce que vous lui répondriez à cet auditeur?
Ben, je répondrais d'appliquer ce que conseille, entre autres, le Concile Vatican II, qui conseille aussi des très bonnes choses, vous le savez, et donc de revenir à l'Écriture Et si vous lisez soit les synoptiques, soit Saint Jean avec la lumière et les ténèbres, soit Saint Paul qui est toujours dans la bagarre ou le sport, hein, Saint Paul, c'est cette dimension est extrêmement présente. Parce qu'au baptême, on renonce en se tournant vers l'Occident, au démon, et donc il faut combattre contre lui et contre la complicité qui est en nous. Donc il y a tout un aspect ascétique dans la vie religieuse, hein, qui se traduit par un combat contre le démon, contre ces complicités en nous qu'on appelle la concupiscence, et contre, disons, les structures de péché qui favorisent tout ça. Et c'est important parce que, pour ceux qui sont de famille militaire le comprendront, hein, voilà, ce vrai cœur de soldat n'a jamais connu la haine, et pour les seuls vrais biens abattus sans retour, hein, c'est justement celui qui est le père aime défendre, et la mère aime défendre leurs enfants, il y a un certain combat. Et de même, là, je crois que le chrétien ou le prêtre, l'éducateur, doit avoir souci d'entraîner son poulain, disons, à ce combat sans lequel il va retomber dans notre Seigneur. C'est le premier acte public qu'il fait après le baptême. Il va se battre avec le démon dans le désert. Ouais. Et donc, bien garder ces deux aspects, l'aspect, disons, ascétique et puis l'aspect mystique qui est plus paisible. Saint Jean de la Croix a écrit deux œuvres pour monter sur le mont Carmel, la subida, la montée, hein, c'est l'aspect plutôt ascétique, et la noche, c'est l'aspect plutôt mystique. Et en haut, il y a le Carmel avec le cantique spirituel. Mais on doit se réjouir du renouveau de la spiritualité actuelle depuis quelques décennies, mais en soulignant bien l'importance de jamais séparer la juste ascétique de la vraie mystique.
On ne la sépare pas non plus dans le troisième sacrement que vous étudiez, mon père, à savoir l'Eucharistie, que vous commencez, vous nous l'avez dit, par contempler, que vous commencez à contempler par son institution, la Sainte Cène. Qu'est-ce qu'on doit regarder? Puisque peut-être que nos auditeurs, les moins connaisseurs de la foi religieuse, savent de loin ce qu'est un baptême, savent de loin ce qu'est la confirmation. La scène, ils l'ont sans doute étudiée d'une manière ou d'une autre, ou vue dans un tableau, voire maintenant même dans des publicités. Qu'est-ce qui doit attirer leur regard, là, s'ils écoutent notre émission et qu'ils regardent en même temps un tableau de la scène? Qu'est-ce qui doit d'abord attirer leur regard et leur intérêt?
Alors là, je donne ma langue au chat, parce que c'est tellement... C'est tellement la scène, l'institution de l'Eucharistie.
Oui, bien sûr.
C'est la synthèse. Père Augustin a une idée.
Je dirais, vous développerez, mais ombre et lumière
voilà.
dans ce mystère oui. Où le Christ va se donner tout en étant livré par le traître.
Voilà, et c'est l'oraison du Vendredi Saint ou du Jeudi Saint qui en parle. Et Romano Guardini, donc cet auteur spirituel que je cite beaucoup, qui était un des pères spirituels de Ratzinger, dit qu'il y a un contraste extraordinaire entre la lumière de Jésus qui rayonne, et les bons peintres ont pu le traduire, sur ses disciples autour de lui, sur Saint Jean en particulier, mais surtout les 10 autres, et puis Judas qui part pour le livrer, donc pour se mettre d'accord avec les princes des prêtres, et puis après avec la puissance politique pour détruire l'œuvre du bien. Donc c'est vrai qu'il y a un contraste, quoi. Au fond, la Sainte Messe qui continue le mystère de la scène, hein, enfin, qui le réactualise de façon non sanglante, et le mystère de la croix, est entouré de ce clair-obscur, hein, qui est traduit par certaines écoles de peinture, d'ailleurs, hein, de façon absolument bouleversante. Et au fond, la troisième partie de l'émission sera une illustration avec les chrétiens du Japon. Quand il y a le bien, si vous voulez, plus il y a une densité de bien, au fond, il y a une accumulation de masse sombre qui est autour. Quoi.
Ultime question sur votre ouvrage dont je rappelle le titre, Père de Blinière, La vie en Christ avec les Pères et Saint Thomas chez Dominique Martin Morin. Vous écrivez qu'il y a une conséquence presque anthropologique au sacrement de l'Eucharistie. Vous dites « De même, l'Eucharistie, en nous mettant au contact de l'amour crucifié, nous révèle comme expérimentalement l'identité de Jésus et la nôtre. »
Ouais. Dans le rite byzantin, quand on l'action de grâce de la communion, on dit nous avons vu la vraie lumière. Et ça me bouleverse toujours cette phrase. Ouais. Après avoir reçu le sacrement de la passion et de la résurrection, on reçoit la lumière. C'est la lumière du Christ et donc qui rejaillit sur nous. Et de même, Jésus, avant de laver les pieds à ses apôtres, il voit que Saint-Pierre s'agite et tout, fait son caprice. nerveux, là, comme il le fait de temps en temps. Et Jésus lui dit, tu ne sais pas, tu sauras après. Ça m'a beaucoup frappé, ça. En fait, parce que Pierre ne se connaît pas. Pierre croit qu'il est le patron de la PME de pêcherie qui marche très bien, le choisi de Jésus et tout, tout. Il ne se rend pas compte qu'il est un traître pardonné. Tu sauras après. Et donc, c'est vrai que l'Eucharistie révèle le reflet du visage du Christ sur nous. Quelle image du Christ nous allons imprimer dans le temps et dans l'aventure humaine.
Il y a tout cela à découvrir et bien d'autres choses dans l'ouvrage du Père de Blinière, La vie en Christ avec les Pères et Saint Thomas, qu'on peut se procurer chez Dominique Martin-Morin. J'imagine qu'on peut le trouver aussi sur le site internet de la Fraternité Saint-Vincent-Ferrier, ou alors, très préférablement, chez votre libraire. Nous allons nous quitter quelques instants pour une deuxième pause musicale et nous allons parler du couple Nagai et découvrir un petit peu la formidable histoire des chrétiens du Japon. Et vous êtes de retour dans le Libre Journal des débats de Radio Courtoisie. Charles Demierre a le plaisir et l'honneur de recevoir le père Louis-Marie de Blinière et le père Augustin-Marie Aubry de la Fraternité Saint-Vincent-Ferrier. Père Aubry, je ne connaissais pas du tout Takashi et Midori Nagai, dont nous allons parler maintenant. Alors, pour nos auditeurs qui, comme moi, ignoraient jusqu'à leur existence, est-ce que déjà vous pouvez nous faire une toute brève présentation de qui et de quoi nous parlons ?
Alors, Takashi et Midori Nagai nous transportent au début du XXe siècle, la première moitié du XXe siècle, dans l'île de Kyushu, donc au sud-ouest du Japon, la grande île qui termine la pointe du Japon, dans la ville de Nagasaki, et plus précisément cette partie de la ville qui s'appelle Urakami, au nord de la ville, qui est la partie chrétienne, depuis fort longtemps, de la ville de Nagasaki. Nagasaki, c'est la zone qui a reçu les premiers missionnaires occidentaux, notamment Saint-François-Xavier, à partir du XVIe siècle. Et il y a une histoire extraordinaire de ces chrétiens du Japon jusqu'au XXe siècle, dont nous parlons sans doute dans la suite de cette émission. Takashi et Midori Nagai naissent en 1908, se rencontrent en 1934, et ils vont se marier, et l'événement majeur de leur vie, ce sera finalement le 9 août 1945, avec la bombe qui tombe sur la ville de Nagasaki. 70 000 morts en une fraction de seconde. Midori finit en cendres, Takashi survit. Et il va survivre quelques années après cet événement. Et sa vie est transformée avec le souci de comprendre cet événement à la lumière de sa foi chrétienne. Il était athée, il était agnostique dans sa jeunesse, scientifique, radiologue, mais très intéressé par la dimension religieuse, spirituelle de l'homme, et intrigué par le catholicisme, qui est un peu un élément étranger dans la vie et la culture japonaise. Il sera un lecteur de Blaise Pascal avant sa conversion, et touché par notamment la mort de sa mère et le sentiment très profond que cette âme n'a pas pu disparaître, mais est immortelle, l'âme de sa mère. Il réfléchit sur sa situation vis-à-vis du monde et de Dieu, et notamment lors de campagnes qu'il mène dans la guerre que le Japon fait en Mandchourie contre la Chine. Il réfléchit sur toutes ces questions et il arrive aux portes de la conversion. Et Midori, la fille des autres qui l'accueillent quand il s'installe à Urakami, sans doute jouera le dernier rôle pour l'amener jusqu'à la foi, jusqu'au baptême et au mariage. Un couple très uni, ils auront plusieurs enfants. Et quand on est à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, Takashi, qui a travaillé avec les rayons X pour développer cette nouvelle science de la radiologie, est malade. Il a contracté une leucémie, il sait qu'il va mourir. Et là, curieusement, les choses ne se passent pas comme il l'imaginait. Hein. Il pensait confier leurs enfants à sa femme et puis lui disparaître. Finalement, c'est l'inverse qui se produira avec la bombe. Et il sent qu'il a une mission à la fois pour ses enfants. Donc, les quelques années entre la bombe et sa mort, il va les consacrer à transmettre au maximum le véritable esprit chrétien à ses deux enfants. Et son message va s'étendre à une vision beaucoup plus profonde pour comprendre le sens de cet événement pour la ville de Nagasaki, le Japon et le monde. Il deviendra une sorte de prophète dans sa toute petite maison qu'il va reconstruire, une hutte, une cahute, une cabane, hein, vraiment, qui fait peut-être 6 mètres carrés, qu'il reconstruit dans le désert atomique, hein, une maison qu'il appelle le Nyokodo, le lieu où l'on sème. Et il va vivre là, et son exemple va attirer des habitants de Nagasaki qui avaient perdu tout espoir. Et le voyant s'installer, les autres viennent aussi, se réinstallent, et il diffuse autour de lui un message de paix, d'espérance, de résilience, comme on dirait aujourd'hui, qui aura un impact majeur pour la ville et le Japon. À l'heure actuelle, aujourd'hui, en 2026, la cause de béatification des époux Nagai, donc Takashi et Midori, a été introduite en 2021 par l'archevêque à l'époque de Nagasaki, Mgr Takami, qui est archevêque émérite de la ville. Et l'introduction de ce procès a été l'occasion d'une activité éditoriale autour de ce couple très inspirant, magnifique. C'est la raison pour laquelle on a souhaité organiser une exposition.
Alors, je donne tout de suite les dates. 8 mai, 28 juin 2026, à Saint-Denis-du-Maine, en Mayenne.
Exactement. Et alors, on pourrait s'interroger sur la pertinence de ce lieu.
C'est bien, vous faites les questions, c'est parfait. C'est très reposant, mon père.
Voilà. Je suis désolé, Charles. mais en fait, cette exposition est comme la suite d'une exposition qui a eu lieu en octobre dernier, à Paris, en face du Panthéon, à la mairie du 5e arrondissement. Très belle exposition organisée par l'association Art Sacré 2, qui portait plus directement sur l'anniversaire de la bombe, le 80e anniversaire de la bombe. Et à l'occasion de ce rappel, l'exposition parlait aussi de la ville de Nagasaki, de l'histoire des chrétiens, de l'évangélisation, de la persécution, et puis de Takashi et Midori Nagai. Et ayant vu cette exposition, je me suis dit qu'il y avait sans doute un message à tirer en mettant plus en lumière le couple Nagai et leur sainteté, une sainteté qui m'apparaît tout à fait adaptée pour notre monde de 2026. Alors là, je vais être un peu plus sombre, hein, mais un monde où enfin, peut-être, nous sommes contraints à la lucidité. Nous avons sans doute vécu depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale dans une bulle occidentale de paix relative, de prospérité économique et de jouissance. Cette bulle a éclaté, elle est en train d'éclater, et tout le monde est devenu conscient que nous perdons notre souveraineté, notre liberté, notre capacité d'action et de pensée, et que le monde est en train de devenir autre. Et dans cette situation-là, il est normal de se tourner vers des sages, des gens qui ont eu un regard plus profond, dans des situations inédites, inouïes. Et situation inédite, par exemple, de la bombe sur Nagasaki qui réduit tout en cendres. Ce fut le cas de Takashi, qui a failli mourir sur l'instant. Et il s'est relevé et il a tâché de comprendre quel pouvait être le sens de cet événement. Alors je laisserai vos auditeurs découvrir la profondeur de sa pensée, qui est, oui, comme le christianisme, qui a une part choquante, mais parfois, pour relancer le cœur, vous savez, il faut un instrument qui donne des chocs électriques. Il y a quelque chose comme ça chez Takashi Nagai. Et puis, j'avoue que cette sagesse extrême orientale qui unit le meilleur de la sagesse de l'Occident avec un Blaise Pascal, avec la simplicité, le pragmatisme de la sagesse de l'Orient, a quelque chose de rafraîchissant dans un monde très technicien. Nous avons un scientifique qui est capable de poser un regard de poète sur le monde et sur l'homme. Toutes sortes de raisons qui invitent à s'intéresser à cette personnalité, à ce couple et à cette histoire.
Alors, père de Blinière, entre diverses passions étonnantes, vous êtes longtemps passionné, je crois, pour des éléments scientifiques. Alors, je ne sais plus si c'est la physique ou l'astrophysique, vous préciserez la chose. Quand vous regardez une vie comme celle des Nagai, est-ce que ça vous inspire quelque chose de particulier ?
Ah ben ça, moi, je fais partie du fan club depuis déjà plusieurs années. Oui, ça m'inspire, parce que moi, c'était l'astrophysique qui me fascinait, entre autres parce qu'elle ne savait à rien, enfin à l'époque où j'en faisais maintenant. Et là, au fond, le scientifique des particules, la physique nucléaire au début, c'était vraiment uniquement l'aspect scientifique. Et puis on a vu les possibilités d'application terrifiantes qu'il y a eu. Et je crois que il y a quelque chose de très beau dans ce parcours de Takashi. C'est comme il était en service en Mandchourie. Hein. C'est là où, dans ses temps libres, il lisait Pascal. Donc c'était vraiment un scientifique moderne rationaliste. Pascal a été le début, et puis ensuite c'est l'amour humain et la liturgie qui l'ont. La première fois qu'il a vu une messe dans la cathédrale de Urakami, ça l'a complètement bouleversé. Et l'amour humain avec cette famille extraordinaire qui descendait de ces filiations qui depuis 250 ans avaient gardé le christianisme sans l'aide des sacrements en dehors du baptême et du mariage. Donc il y a quelque chose de vraiment très très fascinant. Et puis comme dit le père Aubry, récemment on a fait des recensions de petits livres avec Confucius et Aristote, c'est vrai qu'il y a quelque chose de fascinant dans cette simplicité profonde de certains sages de l'extrême-orient qui ont l'art de pénétrer par le regard, au fond l'intuition, des choses qui recoupent tout à fait ce que nous les occidentaux nous mettons davantage en expression rationnelle, mais c'est extrêmement touchant. Et il y a une phrase qui m'a beaucoup frappé dans la vie de ce ménage, enfin de ce couple chrétien. C'est une phrase de Takashi à sa femme: Nidori, quand nous mourrons, nous pourrons dire que notre vie a été belle. Et ça, je le répète, et répétez-le, faites-le répéter. Quelqu'un qui est baptisé, qui a reçu les grâces du Christ: Nidori, quand nous mourrons, nous pourrons dire que notre vie a été belle. Et de fait, cet homme a eu une vie belle et même rayonnante, qui ensuite a atteint toutes sortes de gens. Chez les païens, il a même reçu le Mikado chez lui, et puis d'autres éléments des rationalistes occidentaux. Et son témoignage est vraiment quelque chose de très actuel, à cheval entre la science dure, je dirais, la physique nucléaire, la poésie et l'amour humain. Voilà.
Père Aubry, nos auditeurs ou nos visionneurs qui iront voir cette exposition, qui découvriront-ils plus particulièrement ?
Alors, ils découvriront une exposition qui se développe de la manière suivante, une introduction sur la ville de Nagasaki et l'histoire chrétienne de la ville à partir de l'arrivée, la présence de saint François Xavier, qui fut d'abord très bien accueilli au milieu du XVIe siècle. Et puis, après ces premières générations de belle entente entre les missionnaires occidentaux et l'élite du peuple japonais qui était intéressée par cette visite, les choses se corsent. Et à la fin du XVIe siècle, on a les premières grandes persécutions qui commencent, notamment celle de 1597 avec les 26 martyrs de Nagasaki. Ce sera en fait un événement décisif pour la vie chrétienne, la vie catholique là-bas. Ça marquera profondément les esprits. Le XVIIe siècle sera marqué aussi par des grandes persécutions jusqu'à l'interdiction totale de la vie chrétienne, d'apostolat chrétien dans tout le Japon. Et le père de Blinien le rappelait à l'instant, il y aura ce miracle de la foi et de la grâce avec ce peuple chrétien qui va survivre et transmettre la foi sans le sacerdoce, hein, sans prêtre pour donner les sacrements, simplement en donnant le baptême, en se mariant et en transmettant les rudiments, hein, par un petit catéchisme, les rudiments de la foi et les prières qui sont transmises de génération en génération dans les familles, moyennant des ministères de baptiseurs et de chefs de communauté. Midori Nagai, l'épouse de Takashi, est descendante, hein, sur les îles Goto, descendante de ces chrétiens cachés, hein, et qui ont eu un rôle exceptionnel avant leur, pour ainsi dire, leur redécouverte, hein, par un missionnaire français, le père Petit Jean, hein, au milieu du 19e siècle, hein, qui était en mission à Nagasaki, construit son église avec interdiction de faire de l'apostolat, mais était seulement là pour les expatriés, dirions-nous, et voit un jour arriver un groupe de femmes très modestes et discrètes qui rentrent dans l'église et commencent à l'interroger pour savoir qui il est. Après quelques questions précises, elles lui disent « Mais sachez que notre cœur est comme le vôtre et que dans notre village, nous sommes tous comme nous. » C'est-à-dire que ces chrétiens qui attendaient des prêtres non mariés, fidèles à Rome et priant la Sainte Vierge, ces prêtres retrouvaient, 250 ans après le départ des missionnaires, des chrétiens qui étaient restés fidèles. Cette histoire est absolument bouleversante et c'est l'introduction de l'exposition qui ensuite s'intéresse plus directement au couple Nagai, l'histoire de leur rencontre, hein, de leur amour, de leurs amours humaines, très, très touchant, très beau de voir la chaste beauté de cet amour d'un jeune couple japonais, mais qui sera brisé par la guerre. Et ça, c'est la partie centrale de l'exposition, avec une attention sur l'événement de la bombe, ce qui s'est passé, le contexte de la guerre au Japon, les conséquences de la bombe, avec une galerie de photos impressionnantes, éprouvantes, hein, il faut bien le reconnaître. Des photos qui ont été longtemps interdites de publication parce que la censure américaine retenait ces images. Maintenant, elles sont connues et elles permettent de saisir ce qu'est l'arme atomique, hein, l'arme nucléaire. Et la dernière partie reprend le fil de la vie de Takashi Nagai après la perte de sa femme. Et comme je le disais tout à l'heure, le développement de ce message spirituel qui se développe, qui mûrit à partir du Nyokodo, hein, cette maison où l'on sème, qui est la fin de l'exposition, avec une sorte d'envoi, un message qu'il avait donné, qu'il calligraphiait comme savent faire les Japonais instruits, hein, un calligramme, une magnifique calligraphie, représentant en kanji l'expression Nyoko Aijin, hein, aimez-vous les uns les autres, qu'il méditait, hein, regardant ce calligramme, il méditait justement sur l'amour du Christ répandu parmi les hommes et qui, selon Takashi, serait le seul vrai rempart à cet appétit de pouvoir et de jouissance, hein, qui est la cause de toutes les guerres.
Dans le catalogue de l'exposition, on voit notamment la pièce 51, qui est, je crois, le discours ou une reproduction du discours d'hommage funéraire aux victimes de la bombe atomique prononcé par Takashi Nagai en la cathédrale d'Urakami le 23 novembre 1945. Donc évidemment, comme on l'a dit, son épouse est morte et on imagine que plus de proches que cela de lui sont morts. Il dit notamment « Notre église d'Urakami, qui est donc, sauf erreur de ma part, le quartier chrétien de Nagasaki, le quartier historique chrétien de Nagasaki, a gardé la foi pendant les 400 ans de persécution religieuse, quand la religion était proscrite et que le sang des martyrs coulait librement. Pendant la guerre, cette même église n'a jamais cessé de prier, nuit et jour, pour une paix durable. N'était-elle donc pas l'agneau sans tache qui devait être offert sur l'autel de Dieu ? » Évidemment, ça fait le lien avec ce que vous nous disiez, Père Aubry. C'est un plaidoyer contre la force pour elle-même, l'esprit de domination sans partage également que la méditation de cette vie, et ça ne manque pas d'avoir des résonances toutes particulières dans notre temps.
Évidemment, c'est sûr que, je le laissais entendre tout à l'heure, notre monde et notre monde de 2026, hein, est en train de se déchirer, est au bord de l'abîme. Les anciens équilibres disparaissent les uns après les autres. Ce que l'on appelle avec vénération l'état de droit, on réalise tout à coup qu'en fait ce sont des papiers tamponnés qu'on peut déchirer autant qu'on veut. S'il n'y a pas dans le cœur de l'homme, dans le cœur des hommes, des raisons plus profondes de cultiver la paix et la véritable amitié politique, en fait, il est certain que nous pourrons avoir à nouveau Hiroshima et Nagasaki, et nous le voyons tous les jours. Raison pour laquelle un plaidoyer pour la paix qui vient du Christ, par un homme qui a connu la guerre, qui n'est pas un pacifiste, je dirais, de salon, hein, quelqu'un qui a connu le front et des fronts très durs en Mandchourie, hein, qui a soigné aussi bien les Japonais que les Chinois, hein, ce discours-là doit incliner nos esprits de 2026 vers des sentiments plus profonds, des réalisations d'une morale vraiment appliquée. Hein. Quelle est la signification, en réalité, de notre système de dissuasion nucléaire, hein. On peut s'interroger, hein, de grands soldats s'interrogent depuis des dizaines d'années sur la pertinence et la moralité de ce système. Je crois que nous sommes à une époque où il est bon de reposer la question.
Il nous reste 2 minutes pour terminer cette émission. Que voulez-vous dire à nos auditeurs qui se demanderaient s'ils veulent aller jusqu'à Saint-Denis du Maine pour assister à pour visiter cette exposition, mon père ?
Eh bien, je dirais qu'ils découvriront une très belle région, dans un très bel endroit, avec une vie extraordinaire qui les touchera beaucoup, qui les invitera à en parler autour d'eux pour édifier leurs amis, leurs enfants, leurs proches, avec autre chose que, je dirais, le marasme ambiant. Là, nous avons de l'évangile tout pur qui nous vient du sud du Japon, et c'est magnifique.
Père de Blinière, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter pour convaincre nos auditeurs de venir visiter cette exposition ?
Ah. Peut-être le fait qu'il y a un lien entre la Mayenne et puis les 26 martyrs.
Ah oui, nous avons quelques secondes pour évoquer ce point qui est très touchant. J'ai parlé tout à l'heure des 26 martyrs de Nagasaki en 1597. Ce martyr a beaucoup touché l'Occident. Il y a eu leur béatification assez vite au XVIIe siècle, puis Pie IX, le bienheureux Pie IX, les a canonisés en 1862. Et cette canonisation, aujourd'hui un peu oubliée de l'histoire, a eu un retentissement extraordinaire, hein, dans le monde chrétien. Il y avait un très grand nombre d'évêques qui étaient présents pour la canonisation. Le pape a profité de l'événement pour lancer sa campagne autour du syllabus. Donc c'était pour le pape Pie IX un événement très important. Et le rejaillissement que ça a eu dans l'ouest de la France, c'est tout simplement une dévotion qui s'est développée autour d'un chapelet des 26 martyrs, un petit chapelet de 2 dizaines avec 26 grains rouges, et qui a été beaucoup diffusé dans les écoles par les frères des écoles chrétiennes, et diffusé aussi dans une petite paroisse de la Mayenne qui s'appelle Pontmain.
C'est à découvrir dans l'exposition Takashi et Midori Nagai à Saint-Denis-Numen. Toutes les informations sur le site de la Fraternité Saint-Vincent-Ferrier.
Vous venez d'entendre le Libre Journal des Débats dirigé par Charles de Meyer, émission préenregistrée le 7 mai 2026 et diffusée pour la première fois le mercredi 13 mai 2026 de 21h30 à 23h, réalisée par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5€ par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce Libre Journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9€ ou 6€ seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.